Ce soir, je vais faire une petite étude qu'on fait à Fréjus. Alors, on s'est lancé dans un peu dans l'Exode, mais l'Exode, pas pour lire l'histoire. N'importe qui peut lire l'histoire. Hein. Vous pouvez la lire et voir les détails de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, bien passé, mal passé, peu importe. Mais on s'est donné comme objectif, et là, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille, et c'est voir Dieu dans l'Exode, voir comment lui travaille, tirer des leçons de comment lui travaille. Et Dieu est vraiment à l'œuvre dans le livre de l'Exode. C'est pas juste une question d'histoire de sortir des esclaves d'un pays pour les rendre donner du bonheur ailleurs. C'est beaucoup plus que cela. Et donc c'est un peu ce que nous allons voir ce soir. Donc il y a la partie des 10 plaies. Hein, encore une fois, vous pouvez lire les 10 plaies. C'est des histoires qu'on lit aux enfants, et ça les étonne. On lit à n'importe qui, c'est quelque chose, et puis on voit la puissance de Dieu, c'est vrai, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Hein, après tout, il est capable, mais pourquoi il n'est pas venu comme ça, une nuit comme ça, youp, venez tous, et puis on part, je vous emmène. Pourquoi cette méthode? Pourquoi faire cela? Hein, et c'est pas juste pour s'amuser, c'est pas pour embêter Pharaon non plus. Hein, pourquoi il l'a fait. C'est un peu parce que le Dieu de l'Exode, c'est le même que le nôtre. Hein. Donc sa manière de penser, de réfléchir à cette époque-là, c'est la même qu'aujourd'hui. Et peut-être ça va nous aider à comprendre un peu comment les choses se passent. Bon, on va avoir une très infime partie de ce soir, mais déjà. Donc, pour moi, ce que je vois dans les 10 plaies, c'est la grande confrontation. C'est une bataille entre Satan et Dieu. Et comme il y en a eu plusieurs, et j'ai toutes les raisons de croire qu'il y en a une grande confrontation encore aujourd'hui. Hein. Et c'est une grande confrontation, donc c'est chapitres 6 à 10, ça s'appelle les 10 plaies, mais en fait c'est pas ça, c'est la grande confrontation, et comment, les aspects, et ce que Dieu touche, et ce qu'il attaque, et ce qu'il veut faire. Le premier point, et puis c'est tout ce qu'on va faire ce soir, mais c'est les enjeux de cette confrontation. Dieu a tout à gagner, Satan a tout à perdre, et chacun y va. Mais pour ceux qui lisent des bandes dessinées, c'est le combat des chefs. Hein, c'est vraiment qui va avoir le dessus. Et bon, vous connaissez la fin, c'est Dieu a eu le dessus, hein, comme d'habitude. Et pour nous aujourd'hui, il l'aura aussi, hein, même si on n'a pas l'air. Hein, parfois, on a l'impression que eux, c'est eux qui gagnent. Vous en faites pas. C'est au moment où l'arbitre siffle qu'on compte le score. Hein, c'est pas. Voilà. Donc, premièrement, et pour prendre ces points un par un, là, je vous donne le plan de la soirée. Donc, d'abord, il veut se créer un peuple qui lui appartienne. Hein, je veux mon peuple. Deuxièmement, il y a un peuple, il choisit un peuple duquel va être issu le libérateur. Le libérateur, déjà, dans un premier temps pour eux, mais un peuple, notre libérateur. Hein, ce peuple de Dieu, c'est de lui que sera issu notre sauveur. Et si Dieu n'avait pas pris sérieusement à ce moment-là de garder ce peuple, de l'isoler, de faire quelque chose, nous n'aurions pas de Jésus-Christ. Hein. Et vous savez, tout ce que Dieu dit à un enfant de Dieu ou à un croyant, il lui fait comme promesse, le diable il est là pour écouter. Hein, il n'arrive pas à deviner ce que Dieu fait, mais si Dieu le dit à quelqu'un, lui le sait. Il connaît bien la Bible, et donc il est en train d'essayer de deviner comment il peut arrêter les choses et mettre des bâtons dans les roues et puis essayer même de bloquer les choses. Bon, il peut toujours essayer. Et puis après, il y a aussi l'enjeu de la promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, il a dit, ce peuple-là, il sera en Canaan. Je lui donne ce pays. Et eux, ils sont loin de là. Et ils sont même pas en état de pouvoir y aller. Ils vont être détruits avant. Et donc Dieu a fait une promesse, il faut qu'il garde sa promesse. Et un autre enjeu, c'est que Dieu a un plan qu'il a déjà mis en place un plan de salut qui est finalement ce fil rouge qui traverse la Bible et qui va jusqu'à Jésus-Christ et puis qui se réalise après, à la fin de l'Apocalypse, et où l'épouse est dans la gloire de Dieu. Mais Dieu a un plan, et il faut qu'il le réalise, il faut que ça marche. Et puis après, il y a son nom. Hein, parce que son nom n'est pas connu à l'époque. On va le voir, mais à l'époque, Dieu, pour dire à Moïse qui il était, il fallait dire, mais je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Ça remonte à 400 ans avant. C'est-à-dire, on n'en sait rien depuis 400 ans, il n'y avait rien du tout. Les enfants d'Israël, tout ce qu'ils savent, c'est qu'on a un ancêtre qui avait un Dieu. Et ça, avec ça, ça ne suffit pas. Hein, c'est un peu comme les gens de nos jours, ils nous disent, ouais, j'avais une grand-mère qui était très croyante. Et alors, ça change quoi pour toi? Hein, et c'est le vague souvenir, bon, je tiens compte, parce que s'il avait une grand-mère qui était très croyante, il a une bonne impression, je lui dis, ben, c'est de ce Dieu-là que je veux te parler. Hein? Mais il y a une sensibilité. Donc voilà rapidement le plan. Donc d'abord les enjeux. Dieu veut un peuple qui lui appartienne. Hein, Exode 3 et au verset 10, il dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » C'est mon peuple. Il y a des peuples, avec un S, ça il en a parlé souvent, mais mon peuple, il n'y en a qu'un seul. Et ça, c'est un principe que Dieu... Et souvenons-nous, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes son peuple. Hein. Et donc, la manière dont il a traité son peuple de l'époque, c'est la manière dont il va traiter son peuple d'aujourd'hui. Il change pas. Hein, comme je vois comment il prend soin de son peuple, c'est le même Dieu, il prend soin de mon peuple. Et ça nous rassure hein, d'étudier cela. Deuxième, c'est Deutéronome 14, et je veux lire ça aussi, Deutéronome 14, c'est très intéressant ce qu'il dit, ça c'est Moïse qui, 40 ans plus tard, eh bien, le rappelle aux enfants d'Israël tout ce qui s'était fait à cette époque-là, et donc, Deutéronome 14 et verset 2, il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et vous savez que dans Pierre, il dit la même chose, il dit, comme peuple saint, l'Éternel est saint et son peuple est saint. Hein, c'est la même vérité pour nous. Donc ce que nous voyons, ce que Dieu est en train de faire, et vous savez ce que veut dire saint? Ça ne veut pas dire qu'il vole sur les nuages et avec des petits des auréoles sur la tête. C'est pas ça. Être saint, ça veut dire séparé, pour Dieu. Hein? Et donc le peuple, l'enfant d'Israël, peut-être c'était des enfants d'Abraham, mais c'était pas un peuple saint. Ils avaient de gros problèmes. Hein? Et ça a pris plus de 40 ans pour le sortir d'eux. Hein, avec Moïse. Donc il dit, je veux un peuple saint. Il faut que je le sépare, qu'il soit distinct, qu'il soit à moi, qu'il soit à mon service. Et ce n'est pas le cas. Et acte 13, donc c'est Étienne, ne pas Étienne, mais Paul qui parle et il parle de son peuple. Mais la question que je viens, c'est pourquoi a-t-il choisi ce peuple-là? Parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus flatteur à l'époque, c'est d'avoir un Dieu à cette époque-là. Et donc Deutéronome chapitre 7, je suis content qu'il y ait un problème avec la montre là-bas parce que je connais pas l'heure. Ça me rend service, et c'est pas moi, hein, je vous assure. Alors Deutéronome chapitre 7. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas une excuse parce que tu as un ordinateur, là, il y a l'heure. Alors, Deutéronome 7, versets 6 à 8, regardez, et c'est important, parce que c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, voilà ce que je pense, ce qu'il y a dans mon cœur. C'est le même Dieu pour nous, hein. Regardez, il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre, hein, ça c'est vrai pour le peuple d'aujourd'hui aussi, hein, les enfants de Dieu, c'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen, c'est vrai encore aujourd'hui, hein, les chrétiens, on n'est pas le plus grand peuple du monde. Il dit, mais, et voilà, pourquoi, la réponse n'est pas comment, mais pourquoi, c'est parce que, la réponse est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, et vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Il dit, il vous a choisi, pas parce que vous êtes beau, pas parce que vous êtes plus intelligent, il vous a pas choisi, mais parce qu'il vous aime. Vous savez, l'amour, c'est l'attribut de Dieu. Hein? Il est amour. Vous savez, s'il m'a choisi parce qu'il m'aime, et il est un Dieu d'amour, eh bien, je sais que je serai aimé pour toujours. Ça ne s'arrêtera jamais de m'aimer, parce qu'il est amour. Hein, s'il m'avait choisi parce que pour une autre raison, qui n'était pas parce que ça rentre dans son programme, et je dis, le moment où le programme est terminé, il n'a plus besoin de moi. Mais il dit, c'est parce que je vous aime. Et pour nous aujourd'hui, dans Jean 4, 19, il dit, voilà, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Hein, on répond, mais il nous a aimé. Et nous sommes à lui parce qu'il nous a aimé. Et il m'a aimé le premier. Hein, on connaît bien ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est motivé par l'amour. Et donc je réponds à cet amour. Hein. Et l'homme pécheur peut répondre à l'amour de Dieu. S'il peut haïr Dieu, il peut aimer aussi. Hein. Alors après, il y a un peuple duquel viendra le libérateur. Dans Genèse chapitre 3, hein, c'est quand Adam et Ève ont péché, puis tout d'un coup... Ça s'est réalisé, et Dieu vient, c'est lui qui vient les chercher, c'est pas eux qui crient à Dieu et disent « Oh, on a fait une grande bêtise, comment on va sortir de là ?» Même pas. C'est lui qui est venu les voir. Et alors, il dit à Ève, il dit « Écoute, tu as un descendant qui écrasera ce serpent qui t'a fait trébucher, qui t'a fait tomber. Il écrasera sa tête. Oh, il sera blessé dans le combat. » Parce qu'il y a une grande confrontation. Hein, la croix du calvaire, c'est une grande confrontation aussi. Hein, c'est pas le. C'est le et là, il dit, et là, il écrasera. Hein, tout comme Moïse a eu le dessus sur Pharaon, Jésus a eu le dessus sur Satan à la croix. Hein, et il l'a. Et donc Genèse 22, quand Abraham qui a déjà exercer de la foi, et donc il est déjà justifié par la foi. Maintenant, quand Dieu lui demande d'offrir son fils, il l'offre et Dieu dit, oh, d'accord, j'ai compris. Il dit, mais de lui sera issu une génération, un descendant qui sera une bénédiction pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et là déjà, Dieu pense à moi. Hein. Donc, que Dieu garde sa promesse avec Abraham, et donc, il va libérer le peuple d'Égypte pour garder sa promesse à Abraham, mais pour moi, ça me touche, parce que mon libérateur est là aussi. Hein, c'est à travers de ce peuple-là que sera la bénédiction pour toutes les nations. Et nous, nous faisons partie des nations. Hein. Et donc, Galates 3,16, il nous dit, justement, hein, cette génération dont on parle, eh bien, c'est Christ. Et Christ, c'est notre sauveur. Donc ça s'est réalisé. Mais si Dieu n'avait pas sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, il n'y aurait pas de croix de Golgotha. C'est la grande confrontation. Satan sait quels sont les enjeux. Et c'est pour ça que Pharaon s'est tellement endurci. Il fallait l'endurcir. Il fallait. Mais Dieu a pu réaliser son plan. Je vais rapidement là, parce que c'est juste, vous mettez ça dans la tête, après vous travaillez plus longtemps. Donc la promesse à Abraham, dans Genèse 15, eh bien, c'est Dieu qui dit à Abraham, il dit, écoute, tu sais, tu es là dans ce pays-là, mais le péché des Cananéens n'est pas à son comble, donc je ne vais pas le donner maintenant. Donc ce qui va arriver, c'est que tu auras des descendants, il y aura quatre générations, qui vont partir, vous allez, ils vont descendre en Égypte, ils seront là-bas, et puis ils seront rendus esclaves, ils seront esclaves, ils seront dans la souffrance, mais après je les délivrerai, et je les amènerai ici, je leur donnerai, etc. Donc, déjà, 400 ans avant, Dieu a déjà fait la promesse, il a donné tout le programme, et puis quand les, et Dieu, même s'il n'est pas dans le temps, il surveille l'heure des hommes, et puis, voilà, le temps est passé, c'est le moment d'intervenir, et il intervient. Pharaon est là, ben, tant pis pour lui. Hein. Dieu a un programme. Et donc, Exode 6, c'est là où Dieu dit à rappelle à Moïse. Moïse, il est revenu en Égypte. Il a été voir Pharaon la première fois, et Pharaon, ben, il dit, mais c'est qui ce Dieu-là, le Dieu d'Hébreu? Moi, j'ai jamais vu adorer un Dieu. Mais d'où me sortez ça? Vous inventez quelque chose? Non, je connais pas. Et peut-être qu'il disait vrai, hein. Il dit, je connais pas. Et c'est terrible, hein, quand les gens du monde, ils connaissent pas notre Dieu. Ils savent pas comment il est. Ils disent, ouais, on a entendu parler de ce Dieu-là, ce Dieu-là, ce Dieu-là. Mais votre Dieu, il est comment? Mais que notre vie soit telle, hein, mais là, c'était un gros problème. Et il dit, voilà, je vais, donc verset 5, il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Quand Dieu fait la promesse, même si les hommes l'oublient, parce que les enfants d'Israël, ils avaient oublié, hein, eux, ils criaient, c'est pas parce que c'était l'heure pour la réalisation de la promesse, eux, ils criaient parce qu'ils souffraient, hein. Et au verset 8, il dit, je ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et donc, il va garder sa promesse. Et pour nous aussi, dans Galates 3, 6 à 8, eh bien, parce que, il nous dit, Paul dit dans ce passage, il nous dit, parce que Abraham crut à Dieu et cela fut compté à justice, eh bien, et parce que Abraham a exercé la foi, et il a eu la promesse sur le mont là, quand il a offert son fils, et que des nations seraient bénies en lui, eh bien, Dieu a gardé cette promesse, et nous sommes bénis à cause de la foi d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham, là devant l'autel, où était allongé son fils. Dieu a fait une promesse, et il s'en souvient, et nous sommes, dans le Nouveau Testament, nous sommes les bénéficiaires de cela. Si Dieu a gardé sa promesse en Exode, Dieu gardera sa promesse pour nous aussi. Hein? C'est le même Dieu. Et après, il y a un plan qui est déjà mis en place. Dieu a un plan. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Voilà Dieu qui est en train de parler. Il est dans le buisson ardent. Il est en train de parler à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Téthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Désiens, les Jébusiens. Il dit, moi j'ai un plan. Et là il dit pas, bon, si j'arrive avec Pharaon, ou si Pharaon il veut bien, tout ça, non, Pharaon il ne fera même pas parler. Il dit, moi j'ai un plan, et je le réalise. Hein? Donc nous, aujourd'hui, on peut regarder, il y a des gens élus, il y a des ceci, ça se passe, il y a des G8, et des G7, et des G10, et puis de tout ce que vous voulez. Mais vous savez, nous, on continue. Parce que Dieu, il fait son travail, eux, ils font tout ce qu'ils veulent, des conférences, et la pollution, sur tout ce qu'ils veulent. Et Dieu... Hein? Comme on dit, vous avez déjà entendu ce proverbe arabe qui dit le chien aboie, la caravane passe. Tu vois, dans notre monde, ils sont en train d'aboyer, ils font des bruits, ils font du tapage, ils essayent de nous dire Dieu n'existe pas. Et Dieu, il passe. Il a le projet de passer, il continue de passer. Hein? On n'a pas à se faire de soucis. Vous savez, quand Pierre avait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il avait les yeux sur les vagues, il a coulé. Vous voulez couler? Regardez ce qui se passe. Regardez la télé à 20h. Et vous allez couler. Mais ouvrez votre Bible à 20h30 et vous remontez. Hein, comme Pierre qui remontait de l'eau là. Et puis ils ont marché jusque dans la barque. Et puis en plus, après la tempête s'est calmée. On attend ce jour où la tempête se calme et on est avec le Seigneur, peu importe si c'est dans une barque et si on est mouillé. On est avec lui. Parce qu'on va ressentir la tempête. On va la ressentir. Tous les disciples étaient mouillés. Mais ils étaient sauvés. Hein, nous, on va arriver avec des drôles d'histoires et des passés, des coups qu'on a pris. Certains, c'était notre faute. Certains, c'est pas notre faute. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on passe la porte. Et qu'on est avec le Seigneur. Et ne décourageons pas. Donc Dieu a un plan là, et il va aller jusqu'au bout. Je donne ces références là. Et puis, nous aussi on voit dans Éphésiens chapitre 1, il dit Dieu a un plan aussi. Et il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, il a un plan qui date d'avant la fondation du monde. Avant de créer le monde et de sachant ce qui va arriver, ce que les hommes vont choisir de faire, tout ça, Dieu l'a dit, moi je prends l'assurance avant. Je fais un plan qui sauve, et il a déjà prévu Jésus-Christ avant que l'homme ait l'occasion de pécher. Vous savez, chez les hommes, ils fabriquent quelque chose, et puis après, quand ça tombe en panne, ils disent, bon, il faudra qu'on trouve une solution. Dieu, il a préparé la solution avant de créer l'objet qui pourrait tomber en panne. Et Dieu a fait un plan, il nous a dit, il a choisi, et il nous a choisi, il a préparé, dans sa tête, dans un sens, il a commencé à me sauver avant la fondation du monde. Deuxièmement, quand Christ est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli, il y a un autre aspect de mon salut qui est fait. Et après, il y a l'instant où je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, et l'Esprit de Dieu, donc la troisième personne de la Trinité, chacun a fait son œuvre. Troisième personne de la Trinité vient dans ma vie, me donne la vie nouvelle, et là, le salut complet. Et le plan se réalise. Et c'est bien fait. Et c'est tout fait par Dieu. Donc ça marche. Hein? Et puis les enjeux du nom de Dieu, et alors, voilà. Donc, vous savez, là, le je suis, hein, c'est Moïse qui a demandé à Dieu, il a dit, mais tu t'appelles comment? Comment je vais dire, tu t'appelles? Dis-lui, je suis. Il dit, c'est un nom bizarre ça, je suis. Mais il n'y a que Dieu qui peut avoir un nom comme je suis. Parce qu'il dit, je suis, et tu mets ce que tu veux derrière, je suis pour toi. Et donc, je suis le Dieu qui te protège, je suis le Dieu qui ta bannière, hein, on a ça aussi, je suis celui qui te délivre, ça c'est tous des noms, hein, vous les connaissez en hébreu, hein, il suffit d'aller trouver le cantique. Mais vous savez, dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis le pain, je suis la vie, je suis la porte, je suis le cep, je suis la résurrection, je suis tout, c'est le même « je suis » tout le long. » Et il dit à Moïse « je suis ». Il dit « Pour vous aussi, aujourd'hui, je suis. » Et quelle que soit ta situation, je suis ce dont tu as besoin. Hein? Alors, verset 6, il dit, je vais agir par les plaies. Hein, regardez, 6, 29, il dit, Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écoutera-t-il? Parce que Pharaon a besoin de savoir. Hein, Moïse sache que Dieu va se révéler à Pharaon. Pharaon, au début, il dit, je ne connais pas. Pharaon, à la fin, il dit, dites à votre Dieu de prier, priez pour moi. Hein. Il change de musique un peu, hein, en cours de route. Chapitre 7, versets 5 et 17, il dit, je veux que les Égyptiens sachent que je suis Dieu. Et c'est vrai qu'eux, déjà, troisième, quatrième plaie, ils commencent à dire, ouais, bon, faut qu'on fasse attention, les magiciens vont dire, ça c'est le doigt de Dieu, Hein, dès l'histoire des poux, ils vont dire ça c'est le doigt de Dieu. Après, plus tard, quand il y aura la grêle qui va aller dans tous les sens, et il y en a qui vont dire, Moïse il a dit qu'il y aura la grêle, on va rentrer les animaux. Il y en a qui ont rentré les animaux, il y en a qui ne les ont pas rentrés. Ceux qui ne les ont pas rentrés, ils les ont perdus. Il y en a qui ont dit, mais leur Dieu, il réussit à faire ce qu'il dit, il va faire, hein, on va les rentrer. Vous savez, c'est petit à petit, ils vont découvrir qui est le Dieu. Et Dieu fait les choses tellement bien, je suis en train de lire dans ma lecture personnelle, là, maintenant je suis dans Josué, mais j'ai lu Deutéronome, mais j'étais en Josué, et les deux espions, ils arrivent à Jéricho, ils frappent à la porte de la dame, et dit, puis elle ne sait pas qui elles sont, bon, après par la suite, la ville leur dit, mais il y a deux Hébreux qui sont là, c'est des espions, ils viennent tout ça, alors elle dit, oh non, c'est pas là, hein. Et après elle monte les voix, elle dit, vous êtes les deux Hébreux, elle dit, écoute, nous ça fait des années qu'on tremble devant vous, votre Dieu il nous fait peur. Et dit, nous, on vous attend depuis la sortie d'Égypte, on tremble. Dieu a été connu jusqu'à là-bas. Vous savez, quand les enfants de Dieu sont ce qu'ils doivent être, le monde, il ne peut pas rester indifférent. Ou bien, il faut qu'ils réagissent. Et il dit, et qu'Israël sache, parce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas leur Dieu. Il fallait qu'eux, ils apprennent. À apprendre qui est ce Dieu. Et il fallait un petit peu, parce que Dieu a prévu qu'il faut traverser la mer Rouge. Vous savez, si vous n'avez pas déjà des petites idées assez claires sur Dieu, vous ne risquez pas de traverser la mer Rouge, hein, même s'il l'ouvre. Et puis en plus, même si avec tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont vu, Dieu il a mis Pharaon derrière eux pour les pousser. Hein. La peur, ça a fait traverser, parce qu'ils n'ont peut-être pas traversé. Hein. Mais quand ils ont vu Pharaon derrière, ils sont passés. Ça aide la foi. Vous savez, mais combien de situations nous aussi, hein, comme des fois quand on a des problèmes, hein, on n'a pas trop envie de prier, mais oh, les problèmes arrivent et alors on dit Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur. Et on commence à essayer comme si il entend mieux quand on met l'accent. Il dit, moi j'écoute depuis longtemps, hein, moi je suis là. Il dit, tu fais ça, c'est pour toi, hein, c'est ton cinéma, c'est pour toi, hein, c'est pas pour moi. Hein. Tu n'as pas besoin de répéter 100 fois, Seigneur, 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 moi je suis là. Et il dit, mais si on ne le connaît pas, si on ne lit pas la Bible pour le connaître, si on ne le découvre pas, eh bien après c'est sûr, tout nous fait peur. Et Philippiens chapitre 2, il nous dit que Jésus-Christ, hein, donc il nous dit Jésus-Christ s'est humilié au plus bas point afin de sauver le plus vil des pécheurs. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Là, il y a un jour où ils vont adorer le Seigneur même s'ils n'ont pas envie. Et Pharaon, qui lui, il allait se laisser influencer par personne, à la fin, il dit, allez-y, partez. Moïse, il a dit, moi, on ne va pas se sauver, on ne va pas rien du tout, on va attendre, Dieu travaille, il est en train de le cuisiner comme il faut, jusqu'au jour où il dira, écoutez, partez, et tenez en plus l'argent, et je vous donne tout l'argent, la paye pour tout l'esclavage que vous avez fait. Ils seront tellement riches que quand Moïse dit amenez de l'argent pour le tabernacle, ils amènent. Vous savez, les Juifs, ils donnent pas facilement. Hein. Il y en aura tellement, ils disent arrêtez. C'est qu'ils en avaient. Hein. J'étais pas gentil sur les Juifs. J'en connais d'autres comme ça aussi. Mais voilà. Quand je regarde dans le miroir, il y en a un qui est un peu serré. Mais, vous savez, Dieu fait son œuvre. Et on peut compter sur lui. Alors, rapidement, Satan, il avait, dans cette grande confrontation, Satan, il avait son représentant, mais l'Éternel avait le sien aussi. Mais Satan n'avait aucun contrôle sur le représentant de Dieu. Tandis que Dieu avait du contrôle, il avait de l'influence sur le représentant de Satan. Écoute, c'est encore comme ça aujourd'hui. Celui qui nous a sauvés, Satan, il ne peut rien faire. Mais Dieu peut agir sur ceux qui essayent de nous embêter et ceux qui peuvent agir. Et 1 Jean 4, 4 pour terminer. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, écoutez, petits enfants, c'est pour des petits, hein, c'est les petits mignons là. Il dit, petits enfants, vous n'avez rien à craindre. Le gros loup méchant, il vous fait pas peur, parce qu'il est déjà mort. Dieu lui a déjà limé les dents, et il fait du peur, il crie, il aboie, mais il hurle, mais craignez rien. C'est déjà réglé. Quand il a dit, tout est accompli sur la croix, là, Satan, il s'est fait avoir. Et dans l'Apocalypse, il nous dit, il y a ce jour où Satan, il est jeté, il vient se plaindre de nous, il essaye de nous accuser des choses, et Dieu l'envoie, et il est en grande colère, mais c'est parce qu'il est perdant. Hein. Celui qui est gagnant, il se met pas en colère. C'est celui qui est perdant qui est en colère. Et écoutez, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et peu importe, c'est Jonathan qui a dit, Dieu peut faire par un petit nombre comme il peut faire par un grand nombre. La force n'est pas dans notre nombre. Pour autre chose, dans le monde, je comprends qu'ils ont besoin du nombre. Mais pour nous, c'est pas une question de nombre, c'est une question sur qui est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hein, c'est celui qui nous justifie, qui peut nous condamner? Nous avons un Dieu extraordinaire. C'est Dieu qui a dit de l'évangile que c'était un évangile, une bonne nouvelle. Mais plus je l'étudie, plus je vois qu'il avait raison. Hein. C'est beau. Et le Dieu, hein, ceux qui nous disent que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant, et puis le Dieu du Nouveau Testament, ils n'ont rien compris. Ils n'ont même pas lu leur Bible. Ils répètent les bêtises de quelqu'un d'autre. Le Dieu qui a agi avec Israël, c'est le Dieu qui a agi avec nous. Et il n'a pas perdu ni de sa puissance, ni de ses capacités, et il réalise son plan. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'elles vont essayer, mais elles ne vont pas y arriver. Prions. Père Céleste, c'est un plaisir de lire ta parole. C'est un plaisir de nous entretenir sur toi. Parce qu'il y a tellement de belles choses. Et Seigneur, donne-nous de prendre le temps de méditer ta parole et de comprendre et d'apprendre. Seigneur, je te remercie pour cette Église et pour son témoignage, pour cette lumière qui demeure là, pour ce phare. Et Seigneur, je te prie de préserver, de garder. Et Seigneur, il y a des âmes qui ont encore besoin, qui cherchent cette lumière. Et en brillant, on prend le risque que l'ennemi sache où on se trouve, mais en brillant aussi, on est comme un phare qui éclaire le matelot perdu sur la mer. Et Seigneur, je te prie de bénir et tous ceux qui participent et tous ceux qui œuvrent ensemble. Et Seigneur, ce travail de corps qui existe ici. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.